Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Myriam Guillot. Deuxième volet de notre série consacrée à l'agriculture, nous revenons ce matin sur une crise qui a vivement secoué le monde agricole européen, la crise du lait. Crise du lait vers une reféodalisation du monde, point d'interrogation.
Nos éleveurs ont besoin de prix, et maintenant, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois et pas l'année prochaine. On a besoin d'obtenir maintenant parce que nos éleveurs le méritent.
Tous les agriculteurs peinent à survivre car le prix du lait a baissé de près de 50%. On essaie de s'en sortir, mais les supermarchés poussent tout à la baisse.
Nous ne nous soucions pas de quitter l'UE ou d'y rester. Nous allons nous battre pour notre industrie. C'est tout ce qui compte pour nous.
Si on ne produisait que du lait, on serait déjà en train de se demander combien de temps on va encore tenir. Avant, la vente du lait nous rapportait 180 000 euros par mois. Aujourd'hui, on en est à environ 120 000 euros. Les rentrées d'argent ont fortement diminué. Si les agriculteurs n'obtiennent pas des prix qui couvrent leurs dépenses, ils vont revoir leur mode d'exploitation, notamment en ce qui concerne le bien-être animal. Aujourd'hui, je veux que le lait ou la viande que je consomme proviennent d'une filière qui respecte des règles et où les animaux ont assez d'espace.
La France, l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne, 3 pays qui ont été touchés par une importante crise de leur filière laitière. Ici en France, en août dernier, la crise chez Lactalis faisait grand bruit. Plusieurs agriculteurs, 400 agriculteurs, bloquaient les routes menant à son usine de Laval pour obtenir un juste prix du lait. Après la précédente crise qui avait touché le secteur en 2009, qui avait abouti, on s'en souvient, à la création par la Commission européenne d'un fonds laitier, l'Europe du lait se retrouve à nouveau en crise. En cause, l'abandon pourtant planifié du régime des quotas mis en place en 1984 et définitivement abandonné le 1er avril 2015. Cet outil de régulation permettait de fixer des seuils de production pour les États membres et sa disparition a naturellement engendré une surproduction globale et donc mécaniquement une baisse des prix prenant à la gorge des éleveurs déjà au bord du gouffre. La fin de ces quotas a entraîné non seulement une surproduction européenne, mais aussi mondiale, provoquant des secousses sismiques jusqu'en Nouvelle-Zélande, premier exportateur mondial du lait grâce à sa gigantesque coopérative réunissant les 10 500 éleveurs du pays, Fonterra, un fonctionnement d'ailleurs hyper structuré et qui contraste avec le modèle européen très éclaté. On essaiera de comprendre ces différences de modèles. Alors, quelles sont les racines de la crise européenne du lait? Est-elle liée à un manque d'organisation à l'échelle de l'Union, à une absence de concertation entre les professionnels du secteur? Comment expliquer qu'elle semble interminable alors que justement, en Nouvelle-Zélande dont je parlais, la crise de 2009 semble derrière nous. Quel rôle aussi la Chine a joué dans cette crise? C'est une question qu'il faudra se poser parmi tant d'autres. Pour y répondre, pour tenter d'y répondre, on a invité aujourd'hui Elsa Casalegno. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieure agronome de formation, vous êtes journaliste, vous êtes chef du service élevage chez La France Agricole, qui est l'hebdomadaire national sur l'agriculture, et puis auteur de cet ouvrage qui est paru en début d'année, co-auteur, puisque c'est aussi Karl Lask qui en est l'un des auteurs. Des cartels du lait, comment ils remodèlent l'agriculture et précipitent la crise qui était parue chez Don Quichotte. On va revenir peut-être sur l'actualité récente ici en France, dans un premier temps, depuis des mois maintenant. La situation des producteurs laitiers européens et en l'occurrence français est difficile. La fin des quotas, je le disais, la baisse aussi des importations chinoises, tout ça a considérablement aggravé une situation qui était déjà compliquée. En France, on l'a vu, cette mobilisation des agriculteurs au cœur de l'été qui a permis de trouver cet accord avec Lactalis au terme des discussions. Le 30 août dernier, on a convenu que la tonne de lait serait facturée à 290 euros en moyenne pour les 5 derniers mois de l'année, ce qui ramène le prix moyen sur l'ensemble de l'année à 275 euros. Est-ce que cet accord était un bon accord? Est-ce qu'il permet de sortir de la crise, Elsa Casalegno?
Alors cet accord, je ne le qualifierais pas de bon accord, mais d'un accord qui limite la casse, au moins pour les éleveurs livrant à Lactalis. Dans un contexte de crise avec des prix bas pour tous les producteurs livrant à des laiteries, j'exclus tous ceux qui font des fromages d'appellation par exemple, ceux qui livrent du lait bio, mais tous les livreurs de lait comme on dit, standards, sont sur des prix moyens déjà inférieurs à 300 euros par 1000 litres depuis le début de l'année. Et alors que les autres industriels laitiers commençaient à ajouter quelques euros, Lactalis, depuis sur juillet-août, s'est démarqué en annonçant des prix du lait très bas, autour de 265 euros ces 1000 litres, soit 10, 20 ou voire 30 euros en dessous de ceux de ses concurrents. Donc ça, les éleveurs ne pouvaient pas l'accepter, donc d'où ces blocages.
Le prix, il a été fixé pour les derniers mois de l'année 2016. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'année prochaine, on revive des mobilisations? Pour le dire autrement, est-ce que le mouvement de baisse des prix que vous nous décriviez va se poursuivre, selon vous?
Alors non, on est plutôt sur une remontée des cours des produits laitiers industriels au niveau mondial. Là, ça s'infléchit nettement à la hausse sur les derniers mois. Donc on peut s'attendre à une remontée des prix en France. Alors le problème, c'est que la façon de fixer les prix aux producteurs en France, c'est un peu une usine à gaz. Ça dépend des... Chaque industriel désormais propose son propre système de fixation des prix. Le tout dans un manque de transparence qui fait que au jour d'aujourd'hui, les éleveurs ne savent pas comment va évoluer les prix, vont évoluer les prix l'an prochain.
Mais alors, chez Lactalis, on nous dit effectivement qu'ils achètent le prix du lait moins cher que leurs concurrents. Par ailleurs, on a des pays qui produisent un lait pour des montants inférieurs ou même supérieurs à ceux qui sont pratiqués ici en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prix mondial du lait. Il n'y a pas de prix mondial comme il y aurait un prix du baril de pétrole.
Il n'y a pas un prix mondial, ça c'est sûr. Même, il n'y a pas un prix français. Mais il y a un certain nombre d'indicateurs mondiaux sur lesquels les uns et les autres s'appuient, alors plus ou moins, pour fixer leur propre prix. Le Fonterra a son propre...
La coopérative néo-zélandaise, on en reparlera tout à l'heure.
Voilà, fixe son propre prix en fonction de ses débouchés sur le marché mondial. Les industriels français s'appuient sur leurs propres débouchés, sur ces cours mondiaux, sur le prix allemand. Certains commencent à introduire des notions de coûts de production au niveau des élevages. Donc c'est un petit peu...
En l'occurrence, voilà. C'est le cas des Allemands.
Les coûts de production,
Sur les
Danone
élevages.
Aussi commence à mettre en place ce genre de contrat en France.
Pourquoi est-ce que justement tous les pays européens n'ont pas été touchés de la même manière? Au fond, quel est le paysage de la crise en Europe? Et pourquoi, par exemple, les Allemands, qui aussi effectivement ont connu des crises, une crise mais peut-être beaucoup moins forte, pourquoi est-ce qu'ils résistent mieux finalement dans ce contexte?
Alors, chaque pays a son propre historique, son propre contexte. On va illustrer l'Irlande, par exemple, qui est un pays plus petit, qui est organisé par des systèmes de coopératives depuis longtemps, et un système fondé sur le lait produit à l'herbe. Et ils exploitent au maximum les prairies, la pousse de l'herbe, et ils sont sur des produits assez basiques et tournés vers les marchés mondiaux depuis longtemps. L'Allemagne a trois paysages très différents. L'Allemagne de l'Est, issue des kolkhozes, avec des grosses structures qui ne sont pas forcément très rentables. L'Allemagne du Nord, sur des exploitations qui sont déjà grosses pour la France, avec quelques centaines de vaches, beaucoup de hors-sol, alimentation maïs, et beaucoup ont mis en place la méthanisation.
Mais surtout, ils ont un modèle de subvention qui est différent. Chez nous, c'est un modèle de subvention au litre de lait, alors qu'en Allemagne, c'est par hectare d'exploitation.
Non, c'est plus compliqué.
Plus compliqué que ça.
Mais c'est aussi, cette méthanisation, par exemple, leur a fait un gros appoint financier, parce que l'État leur rachetait un tarif d'électricité largement subventionné. Donc il y a aussi des systèmes de fiscaux différents, de transmission d'exploitation différentes, des systèmes un peu de subventions détournées. Et effectivement, en termes de subventions, les Allemands ont enclenché il y a plus longtemps une remise à plat de leur...
Qui leur permet de mieux résister ?
Qui leur permet pas forcément de mieux résister, mais ils ont déjà passé ce cap des ajustements, en fait. Et ils sont sur des systèmes un peu plus industriels, et ils ont sûrement davantage anticipé cette fin des quotas, avec d'un travail sur la rentabilité, les coûts d'investissement.
On va revenir justement sur cette anticipation. Écoutez ce que disait d'abord peut-être un des porte-parole de Lactalis dans un reportage sur Arte à la fin du mois d'août.
On est dans un marché européen et mondial pour lesquels le prix du lait est inférieur à celui de la France. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas, dans un marché ouvert et de concurrence internationale, avoir des prix du lait qui soient décalés autant par rapport à nos concurrents.
Voilà, on peut pas appliquer des prix du lait totalement décalés par rapport au prix du lait dans le reste du monde, nous dit ce porte-parole de Lactalis. On a évidemment présenté Lactalis comme l'un des principaux responsables coupables dans cette crise, ce qui est le cas, mais est-ce qu'on n'a pas oublié aussi la responsabilité de la politique, des politiques et des politiques européennes en l'occurrence, qui pendant des années ont peut-être fait croire, avec ces systèmes de quotas, que les agriculteurs échappaient au marché du lait. Cette levée des quotas, elle était prévue depuis longtemps, et il semble qu'on ne l'ait pas anticipée, en tout cas si on en croit la crise qui en a découlé. Pour quelle raison ? Pourquoi ce manque d'anticipation ?
Alors, elle a quand même été anticipée. Elle a sûrement été beaucoup plus anticipée dans d'autres pays. Pour ne pas les citer, l'Irlande et les Pays-Bas, par exemple, qui se sont projetés dans un paysage sans limite et qui avaient déjà annoncé, l'Irlande avait déjà annoncé qu'elle augmenterait sa production de 50% à l'arrêt des quotas. Les Pays-Bas avançaient le chiffre de 20-30% en plus. Donc ça déjà depuis 2-3 ans. Donc on le savait que la production allait fortement augmenter. En France, depuis 2011, un système de contractualisation a été mis en place pour les éleveurs livrant à des laiteries privées.
Donc, vous rappelez que c'est un système qui a été mis en place à l'époque par le ministre de l'Agriculture qui était Bruno Le Maire, vous le rappelez dans votre ouvrage. Et vous dites que si nombre de ses prédécesseurs à l'époque avaient tout fait pour conserver ce système de quotas qui existe depuis 1984, lui en revanche, il a tout fait pour le faire disparaître.
Oui, il a acté le fait qu'il n'y aurait pas de il n'y avait plus de défenseurs des quotas au niveau européen suffisamment puissants pour continuer à faire pencher la balance. Et il a décidé d'accélérer le mouvement en mettant en place cette contractualisation. Il a aussi sûrement écouté ce que disaient les industriels et le syndicat majoritaire, la FNSEA, qui se positionnait depuis un certain temps aussi sur cette disparition des quotas.
On va revenir sur la FNSEA, mais ce que vous dit un petit producteur de Quimperlé, vous le racontez dans votre ouvrage, c'est que lui, il savait très bien que cette crise allait arriver, il vous le dit. Et donc que ses collègues, justement, syndicalistes à la tête de chambres d'agriculture et autres responsables politiques ne pouvaient pas ne pas savoir. Pour lui, il va même plus loin, il dit que la crise, elle a été voulue. C'est peut-être une forme de provocation, mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vous dit.
Elle a été, effectivement, certains pensent que, en tout cas, on a laissé faire. On a laissé faire, et quand on entend le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, dire que, ma foi, cette crise, elle fait le tri, elle fait le ménage parmi les éleveurs, que les moins compétitifs, comme ça, ils sont éliminés et ne restent que les plus compétitifs. C'est un peu ce, il ose dévoiler ce que certains attendaient en termes de ce qu'on dit restructuration de l'élevage, c'est-à-dire de concentration. Pour les industriels, il y a un avantage en termes de coût de collecte du lait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux collecter 1 million de litres en un seul point qu'en 10 points différents. Ça coûte moins cher.
Donc on a laissé faire le marché.
On a laissé faire le marché. Et
oui. Sur la question. Allez, et quoi ? Vous vouliez poursuivre ?
Non, allez-y.
Sur la question des syndicats, justement, vous dites qu'à l'origine aussi de ce problème d'anticipation, il y a des divisions syndicales avec d'un côté la FNSEA qui est le syndicat majoritaire et puis les plus petits syndicats.
Ah, clairement, les plus petits syndicats se positionnaient pour un maintien des quotas ou au moins un maintien d'un système de régulation européen. La Confédération paysanne, depuis longtemps, c'est un discours pour le moins constant. Et la coordination rurale et l'équivalent européen, le syndicat européen, European Milk Board, EMB, depuis la crise de 2009, se sont aussi positionnés sur un maintien de d'une régulation.
Et pourquoi ils n'ont pas fait le poids ?
Ils n'ont pas fait le poids parce qu'il y a des. En face, il y a les industriels d'une part, qui voient des marchés se profiler à l'exportation, et les syndicats majoritaires dans les différents pays européens, qui sont également très favorables à l'export.
Et qui sont également surpuissants. Vous avez un chapitre qui est consacré aux patrons, qui est intitulé patron. Et c'est celui d'ailleurs que François Hollande appelle comme ça, le président. Et le président, c'est pas François Hollande, c'est Xavier Belin. C'est le président de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui représente 53% aux élections aux chambres d'agriculture. En tout cas, c'était le cas en 2013. Vous lui prêtez quand même un pouvoir absolument considérable. Vous dites, ces dirigeants syndicaux, alors lui, mais également ses prédécesseurs, les anciens présidents de la FNSEA, ces dirigeants syndicaux pouvaient éconduire ou adouber des ministres.
Oui, la FNSEA, depuis la, a participé à la reconstruction de l'agriculture depuis l'après-guerre, c'est historique. Donc, c'était le seul syndicat après-guerre. Donc, il a travaillé en le terme co-gestion, voilà, en co-gestion avec les ministres de l'agriculture successifs. Avant que cette co-gestion devienne une co-gestion un peu trop à sens unique, sans écouter forcément, sans laisser leur place aux plus petits syndicats. C'est vrai que l'avis de la FNSEA va compter dans un choix de ministre.
Oui, mais c'est incroyable parce que vous laissez entendre, c'est pas tout à fait clair, mais vous laissez entendre que Xavier Belin aurait soufflé au président de la République l'idée de prendre Stéphane Le Foll à l'agriculture.
Alors Stéphane Le Foll est connu du monde agricole, il a été eurodéputé, il a beaucoup suivi les dossiers agricoles, il était prof en lycée agricole pendant un temps. Donc c'est un domaine qu'il connaît bien, il est effectivement FNSEA compatible. Donc face à d'autres prétendants au poste beaucoup trop à gauche aux yeux de la FNSEA, lui avait le mérite d'être plus consensuel.
Donc c'est le FNSEA qui forme le gouvernement, quoi.
Peut-être pas à ce point non plus. Mais son avis compte, puisque c'est quand même le partenaire, l'interlocuteur, on va dire, principal.
On va s'intéresser tout de suite à la Chine, parce que la Chine aussi a eu un rôle dans cette crise. Dans les années 2000, le gouvernement chinois a poussé les Chinois à consommer des produits laitiers. Ils en mangeaient assez peu jusqu'alors. La demande a augmenté, la production et la consommation ont été multipliées par 3 en quelques années. Et puis, il y a eu, on s'en souvient, les scandales du lait frelaté. On se souvient de cette affaire de mélanine en 2008, dans laquelle 300 000 bébés auraient été touchés et plusieurs auraient même trouvé la mort.
Jusqu'à ce jour, les instituts médicaux à travers toute la Chine ont déjà examiné 10 000 enfants qui ont consommé du lait en poudre de la marque Sanmi. En tout, il y a 1253 cas recensés d'enfants malades.
À cause de cet incident, nous interdirons toutes les importations d'aliments chinois contenant du lait en poudre jusqu'à ce que nous serons capables d'assurer la sécurité de ces aliments chinois. Si quelque chose vient de Chine, n'importe quel produit laitier, nous ne devrions pas attendre pour le mettre sur la liste des produits interdits. Ce qui est important, c'est de se retenir de l'acheter et pour les magasins, de s'abstenir de le vendre. Les gens ne devraient pas attendre la liste officielle, ce sont des facteurs retardataires. Ce qu'on doit vraiment faire est de protéger la santé du consommateur.
Voilà, on entendait notamment Choi Soon-rak, qui est l'agent de sécurité alimentaire coréen, mais aussi Francisco Duque, le ministre de la Santé des Philippines de l'époque, qui s'était mobilisé pour interdire l'importation de lait chinois. Depuis ces scandales, les autorités chinoises ont dû prendre des mesures pour consolider ses besoins en produits laitiers à travers des acteurs, des filières extérieures, mais elles n'ont pas complètement perdu l'espoir, on va le voir, de reconquérir ce marché intérieur avec son propre lait. Bonjour Jean-Marc Chaumet.
Bonjour,
merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct depuis Shanghai, ce qui explique probablement le petit décalage qu'il va y avoir entre mes questions et vos réponses. Vous êtes agroéconomiste, vous êtes membre de l'IDLE, l'Institut de l'élevage, un spécialiste de la Chine. Vous êtes peut-être l'un des meilleurs spécialistes du secteur laitier chinois, en tout cas l'un des plus reconnus. Alors suite à ces scandales sanitaires, les consommateurs chinois sont devenus méfiants, ils ont délaissé la production nationale pour se tourner vers des produits importés. Tout cela pendant un temps a été très bon pour les producteurs laitiers européens, sauf qu'à un moment, ce nouveau marché il s'est retourné, la demande chinoise a baissé et ce nouvel élément a ajouté à la fin des quotas laitiers dont on parlait à l'instant avec notre invité ici en plateau Elsa Casalegno, a porté un coup très dur à la production laitière européenne. Quelle part est-ce que vous pensez qu'il a joué précisément dans la crise qui touche encore le secteur en Europe, et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la demande alimentaire chinoise continue de perturber le secteur laitier européen, Jean-Marc Chaumet?
Alors, le rôle de la Chine a été relativement important dans la crise du lait actuelle. Ça n'a pas été le seul. Comme ça a été dit, il y a aussi eu la fin des quotas laitiers. En fait, ça a été la conjonction de plusieurs facteurs. La fin des quotas laitiers, l'embargo russe et la baisse de la demande chinoise. La baisse de la demande chinoise qui fait suite à des importations très élevées pendant un temps très très court qui ont été un phénomène, je dirais, de spéculation. Et ensuite, ça s'est retourné et les importations chinoises ont reculé. Donc, c'est un phénomène, je dirais, conjoncturel qui dure depuis 2 ans. La Chine a constitué des stocks très importants de produits laitiers qu'elle essaye d'écouler petit à petit. les stocks restent encore relativement, les volumes de stocks restent encore relativement importants, mais on pense que dans quelques mois, peut-être un an, les stocks devraient commencer à diminuer. Et d'un autre côté, la production laitière européenne recule également, donc les prix devraient remonter. Donc tout ça devrait permettre, en 2017, on espère, une remontée des prix. Mais sur le plus long terme, la demande chinoise en produits laitiers va de toute manière continuer à augmenter. Les Chinois consomment à peu près 3 fois moins de produits laitiers que la moyenne mondiale, c'est-à-dire à peu près 30 litres équivalent lait par an. Et il y a, comme vous l'avez dit, depuis les années 2000, un très gros effort du gouvernement pour encourager la consommation de produits laitiers. Et cette consommation, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, avec la croissance économique, avec l'urbanisation, puisque depuis 2011, plus de la moitié de la population chinoise est maintenant urbaine, cette consommation va augmenter. Maintenant, toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle va augmenter grâce aux importations, ou est-ce qu'elle va augmenter est-ce que cette consommation va se reporter sur les importations ou plutôt sur la production chinoise. C'est là toute la question.
Ouais, on va justement essayer de comprendre ça. Suite à cette vague de scandales sanitaires, la Chine, on s'en souvient, avait engagé des investissements dans des productions étrangères à partir du début des années 2010. C'est ainsi qu'on a de nombreuses industries laitières qui ont été rachetées par les Chinois. C'est le cas, par exemple, notamment en France, on s'en souvient, on avait pas mal parlé de cette coopérative d'Isigny-Sainte-Mère dans le Calvados. Quelle a été globalement la logique d'investissement de la Chine sur le secteur laitier à l'étranger et quelles en ont été les conséquences sur le marché mondial du lait?
Alors, la logique d'investissement chinoise dans le domaine laitier, elle s'inscrit d'abord dans une logique plus globale d'investissement à l'étranger qui a commencé dans les années 2000 et qui concerne tous les secteurs, aussi bien l'infrastructure que les services, que la banque et également l'agriculture. Dans le secteur laitier, ça a vraiment, comme vous l'avez dit, commencé à partir de 2008-2010, après le scandale de la mélamine. Et il y a deux manières de voir. Une manière politique poussée par le gouvernement, les entreprises vont chercher des ressources laitières à l'étranger pour abonder le marché chinois. Donc il y a déjà ça. Et sécuriser les approvisionnements. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont acheter à l'étranger, qui vont réimporter ensuite le lait ou les produits laitiers en Chine, mais c'est toujours contrôlé par des entreprises chinoises. Donc ça, c'est une volonté du gouvernement qui aide ces entreprises à investir à l'étranger avec des prêts bonifiés, avec tout un tas d'incitations financières.
Jean-Marc Chomel, je vous coupe un instant oui. Et je vous laisserai poursuivre, mais c'est très important ça. Il y a quelques mois, la presse internationale a repris une information selon laquelle la Chine aurait volontairement manipulé les cours du lait pour justement réaliser tous ces investissements dont vous nous parlez dans les fermes laitières de l'étranger. Est-ce que cette hypothèse, elle vous paraît plausible ?
Pour moi, non. Pour moi, non, pour tout un tas de raisons. La première, c'est que la crise laitière qui touche actuellement le monde touche également la Chine. Les entreprises laitières chinoises sont en grande difficulté. Elles ont des usines qui ne fonctionnent pas à plein. Peut-être 60 ou 70% seulement de la capacité est utilisée. Les prix sont extrêmement bas. Il y a des promotions sur les produits laitiers pour écouler les stocks. Donc, c'est une crise qui touche vraiment la Chine. Et je ne pense pas que la Chine ait provoqué cette crise qui touche tout l'ensemble du secteur laitier, pour que certaines entreprises puissent investir à l'étranger.
Non, mais l'hypothèse n'est pas complètement farfelue. Il faut expliquer pourquoi aux auditeurs. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le gouvernement chinois a beaucoup poussé les consommateurs chinois à consommer du lait. Les niveaux de consommation ne cessaient d'augmenter. Et pendant un moment, justement, il y a eu une baisse de la consommation et ce qui a provoqué cette chute des prix. Donc l'hypothèse n'est pas complètement farfelue.
Elle est, que les Chinois profitent de la crise pour investir, ça, je pense que tout le monde en est conscient. Qu'ils aient provoqué la crise, non, parce que, comme je l'ai dit déjà, c'est une crise qui touche tout le secteur et qui vraiment fait beaucoup de mal aux entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui reculent, qui ont des profits qui reculent. Ensuite, ça veut dire qu'il fallait se coordonner, qu'il fallait coordonner toutes les entreprises chinoises pour qu'elles arrêtent d'acheter sur le marché, ce qui est relativement compliqué. Donc, pour moi, cette hypothèse n'est pas valable. Par contre, que les entreprises chinoises profitent de cette crise, que certaines qui ont encore des ressources profitent de cette crise pour investir, ça oui, totalement. Ils profitent de la crise pour investir ailleurs. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc, je reviens à mon deuxième point, qui est qu'il faut voir ça, les investissements à l'étranger du point de vue des entreprises. C'est que les entreprises, le lait en Chine a deux problèmes. Un problème de qualité et un problème de prix. Le prix en Chine du lait est très, très élevé payé aux producteurs. Il est, si on convertit en euros aujourd'hui, à 50 centimes d'euros. contre à peu près 30 centimes en France aujourd'hui. Donc c'est un lait qui est qui comment dire, dont la qualité est mise en doute et qui est très cher. Donc les entreprises vont chercher à l'étranger un lait qui est moins cher et dont la qualité permet de vendre en Chine. Et donc ça permet de faire des profits. Donc il y a aussi une recherche de profit des entreprises chinoises lors de leurs investissements à l'étranger.
Vous restez avec nous, Jean-Marc Chemet. Je me tourne vers Elsa Casalegno. Réaction peut-être sur ce rôle de la Chine dans cette crise du lait européenne. Et puis peut-être détailler un tout petit peu pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent quels sont finalement les pays d'Europe où la Chine, justement, s'est implantée dans le secteur laitier. Et sur quels critères, Elsa Casalegno?
Alors, tout d'abord, c'est sûr que ce retournement du marché chinois que Jean-Marc Chaumet évoquait en 2014 a joué. C'est-à-dire les cours ont commencé à plonger à ce moment-là. Après, ce retournement de marché, je dirais, c'est quelque chose qui arrive fréquemment sur les marchés mondiaux, donc ça n'aurait pas dû à lui seul déstabiliser autant la filière laitière. Mais par-dessus là est arrivée la fermeture du marché russe, suite à la crise diplomatique en Ukraine, avec un reflux de volume de fromage essentiellement important vers l'Europe. La Russie était l'un des principaux débouchés européens, en particulier allemands, sur les fromages et d'autres produits laitiers. Donc tout cela est revenu sur le marché européen, a encore contribué à saturer ce marché européen. Et par-dessus ça est arrivée la fin des quotas laitiers qu'on sentait déjà venir, avec une production laitière européenne qui augmentait déjà depuis plusieurs mois et où les producteurs se sont vraiment lâchés à partir d'avril 2015.
Ce qu'on remarque finalement, en tout cas en vous entendant, Elsa Casalegno, c'est que on a beaucoup misé sur l'exportation et que de fait, ça rend les agriculteurs, les producteurs laitiers extrêmement exposés en réalité. Le moindre à-coup, que ce soit l'embargo russe, que ce soit la baisse de la consommation chinoise, provoque des crises considérables. Comment permettre justement de sortir de ce contexte-là? Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'on peut sortir de cette logique d'exportation? Ou est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut peut-être jouer? Par exemple, la question de la qualité. Jean-Marc Chaumet disait, ce que cherchent les Chinois, c'est un lait pas cher, mais c'est aussi un lait de qualité. Est-ce que précisément, en produisant un lait de meilleure qualité, on peut sortir de cette exposition à la crise?
Alors, le problème, ce sont les matières premières agricoles. Une très faible fluctuation de l'offre ou de la demande, un léger mauvais ajustement entre l'offre et la demande entraîne des fortes variations de prix, mais c'est vrai aussi pour les autres matières premières agricoles, du fait que c'est indispensable de se nourrir d'une part, d'autre part que ce sont souvent des matières qui se conservent pas très longtemps, qu'on ne peut pas stocker indéfiniment. Donc, il y a une réactivité immédiate à des mauvais ajustements de marché. Donc là, on le voit, hein, les fluctuations des cours mondiaux des prix des produits agricoles sont très très fortes et d'amplitude et en rapidité. Le problème, c'est que ces exportations vers les pays tiers hors Europe, le marché européen est quand même un marché commun, ça concerne 10 à 15% de la production laitière européenne et elle suffit à déstabiliser l'ensemble de la production. Donc elle se répercute y compris sur ces 80-85% qui concernent un marché, alors certains diraient stagnant pour justifier l'export, la recherche d'export, d'autres diraient simplement à peu près stable. Ces 500 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat élevé, il y a un marché intérieur sur lequel on pourrait s'attendre à ce que les entreprises s'appuient pour tenter des développements à l'export sur des produits à haute valeur ajoutée. Et là, on s'aperçoit dans le fonctionnement des marchés des matières premières agricoles que c'est pas du tout ça ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est à l'inverse cette petite part exposé aux fluctuations mondiales qui déstabilise l'ensemble.
Alors justement, puisque ça déstabilise l'ensemble, retournons du côté de la Chine avec Jean-Marc Chaumet pour savoir si finalement la Chine serait en capacité de relancer sa production nationale. Et quand on regarde un peu les choses de près, on se rend compte que c'est le cas. En tout cas, il y a des velléités en la matière. Jean-Marc Chaumet, ces dernières années, la Chine a également construit des partenariats, on le disait, destinés à relancer sa propre production. Regardons par exemple la multinationale néo-zélandaise dont on a déjà parlé, Fonterra. Pékin a permis à la Nouvelle-Zélande d'accéder à des quotas d'importation de poudre de lait en échange de l'engagement de la coopération néo-zélandaise dans la restructuration de la filière nationale. Donc on voit bien que le désir, l'ambition de relancer sa propre production est là, Jean-Marc Chemet.
Tout à fait. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la production chinoise a été multipliée par 3 entre 2000 et 2008, mais depuis la crise de la mélamine, elle stagne. Elle n'a pratiquement pas augmenté de quelques pourcents. Donc il y a vraiment un problème, et le gouvernement chinois a dû ouvrir les frontières pour importer des produits pour satisfaire la population, puisque sa production locale n'arrivait plus à satisfaire en qualité et même maintenant en quantité la consommation des Chinois. Et donc le gouvernement chinois cherche à reconquérir le marché national et à limiter, on va dire, de fait les importations. Et pour ça, il a deux axes. Il a un premier axe sur les exploitations agricoles elles-mêmes, puisque là, il faut savoir qu'en 2008, il y avait encore plus de 2 millions d'exploitations laitières chinoises, dont la majorité avait moins de 10 vaches. Et aujourd'hui, les chiffres montrent que 20% des vaches sont dans des exploitations de plus de 1000 vaches et 40% dans des exploitations de plus de 200 vaches. Donc on a une volonté du gouvernement chinois de faire disparaître les petites exploitations qui sont jugées comme peu sûres au niveau sanitaire et de transférer ces vaches dans des très grandes exploitations qui, pour le gouvernement chinois, sont beaucoup plus faciles à contrôler, à gérer, avec du personnel qualifié comme des techniciens formés ou des vétérinaires formés, sachant que les petits éleveurs de vaches, en général, n'ont jamais été formés à la production laitière.
Finalement,
ils ont donné des vaches dans les années 2000 et puis ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc ouais. Il y a une volonté de rationaliser et d'agrandir la taille des exploitations jusqu'à 40 000 vaches ou même plus. Hein. Ça arrive en Chine. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est sur les industries. Il y a eu aussi une volonté de faire le ménage au niveau des transformateurs laitiers qui ont dû tous renouveler leur licence, s'adapter à des nouvelles normes qui ont demandé des investissements très importants. Tous n'ont pas pu faire ces investissements ou se mettre aux normes. Et donc, il y a eu un certain nombre d'entreprises, près de la moitié, d'entreprises d'une certaine taille, qui ont disparu. Donc voilà les deux volets. Et le troisième volet, c'est vraiment, je dirais, la transparence. C'est-à-dire que les entreprises chinoises qui ont des fermes ou qui ont des usines ouvrent leur site à tout visiteur. Plus de la moitié des usines du deuxième groupe chinois peuvent se visiter. On peut aller visiter l'usine, on peut aller voir les camions, on peut aller voir toutes les installations où se fait le lait. Tout ça, c'est visible avec à chaque fois une sorte de petit musée qui montre comment se fait le lait, d'où vient le lait, quelles sont les précautions prises, etc., etc. Il y a vraiment une volonté de reconquérir le consommateur chinois pour lui faire comprendre que les produits chinois sont maintenant sûrs, au même niveau que les produits étrangers. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un scandale sur un produit étranger, ça fait la une des journaux en Chine pour montrer que voilà, les étrangers...
Et pour finir de convaincre finalement le consommateur chinois qui va bien finir par se retourner vers la production nationale. Elsa Casalegno, c'est intéressant parce que on entend finalement dans la bouche de Jean-Marc Chomet cette idée d'une rationalisation, je mets entre guillemets ce terme, mais en tout cas, cette rationalisation du secteur, c'est-à-dire qu'on augmente la taille des exploitations pour pouvoir rendre tout ça plus rentable et donc agir sur le prix. On joue sur cette question de la transparence pour finir de persuader les Chinois que vaut mieux acheter du lait chinois que du lait étranger. Tout ça, quand même, nous rassure pour le consommateur chinois, mais nous inquiète. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce que dans quelques années, la Chine soit en capacité de produire un lait dans lequel les consommateurs chinois auront à nouveau confiance et que tout cela se retourne contre le lait européen. Ça nous promet une nouvelle crise en réalité.
Oh, sans doute, mais il y en aura d'autres avant. Ouais. Si on est parti sur des fluctuations aussi rapides des prix, on n'a toujours pas trouvé comment les amortir au niveau des élevages européens. Et là, le prix ces derniers mois remonte, les prix mondiaux remontent. Donc la tension et les recherches de solutions risquent malheureusement de se relâcher. Moi, je voulais quand même insister sur la gravité de cette crise. C'est-à-dire depuis l'an dernier, les éleveurs laitiers souffrent vraiment. Certains s'en sortent, c'est pas le problème. Mais là, les dernières études, de l'Institut de l'élevage montrent que les revenus pour les éleveurs de plaine, c'est-à-dire typiques de Bretagne, Normandie, donc qui fournissent justement ces usines, ces laits standards, 25% en 2016 auront un revenu négatif et le revenu moyen sera de 2000 à 3000 euros par an, donc sur l'année 2016. Donc c'est vraiment très très faible. Et là, on va perdre des éleveurs, mais on va perdre aussi toute une ambiance laitière, une ambiance rurale, des traditions laitières. Enfin, c'est une... on laisse tomber un pan de la société, là. Donc, pour moi, c'est grave et c'est une réponse politique qui doit être apportée.
Surtout qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Non, une exploitation laitière qui ferme, c'est rare qu'elle le réouvre après.
Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Marc Chemet qui était avec nous en direct depuis Shanghai, qui est agroéconomiste, membre de l'IDLE, de l'Institut donc de l'élevage, et puis Jeanne Dic aussi, rédacteur en chef de Chinapsis pour Acteurs Bretons de la coopération internationale et de la solidarité, qui est une lettre de veille agricole sur la Chine. Merci à lui d'avoir été en direct ce matin avec nous. On parlait de rationalisation, Elsa Casalegno. On parlait de montée en puissance des exploitations qui deviennent de plus en plus grandes, avec de plus en plus de vaches. Regardez, au cœur de l'Arabie Saoudite, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Riyad, en plein désert, la plus grande ferme intégrée au monde, la ferme Al-Fassi.
We have been in operation now for almost 20 years. We milk around 450 cows every 8 minutes. And with this number of cows, you really cannot afford to not to have a reliable system. That's why we chose to go with the Lafal.
Voilà, ce qu'on entend là, c'est le film de présentation, le film institutionnel de cette ferme Al-Fassi. Plus de 37 000 vaches traitées trois fois par jour dans six salles de traite, offrant quelques 600 000 litres de lait par jour. La moitié de leur alimentation étant produite sur place, avec le foin, la luzerne, grâce à l'irrigation qui va pomper l'eau à près de 2000 mètres de profondeur. Cette ferme, c'est la plus grosse ferme du monde. Elle a été créée en 1979 par Abdullah Al-Faisal. Et il y a quelques années, Danone a racheté la moitié de l'entreprise pour pouvoir poursuivre le développement du site. C'est ça qui nous attend, ce système de méga-ferme est voué à se développer un peu partout dans le monde. Mais il se développe en plein désert, alors on peut l'imaginer n'importe où ailleurs.
Oui, c'est un mouvement de fond depuis un certain nombre d'années, qui s'accélère depuis les années 2000, avec cette industrialisation de notre production alimentaire, en fait. La population, c'est vrai, la population mondiale s'accroît, la population urbaine explose et il faut alimenter en continu ces millions de personnes réunies en un seul lieu. Donc les pays, je pense à l'Arabie Saoudite, ils sont passés de 90% de ruraux à 80% d'urbains en l'espace de quelques décennies. Donc tout ça est un chamboulement total de l'approvisionnement alimentaire et du régime alimentaire. Là, c'est la mondialisation qui fait découvrir d'autres aliments qui viennent d'ailleurs. On a aussi envie d'y goûter, surtout quand on a le pouvoir d'achat, dont acte. Donc ça veut dire que l'approvisionnement alimentaire ne peut que s'industrialiser. Et dans cette recherche qu'ont tous les États d'une relative autosuffisance alimentaire, c'est quand même une arme diplomatique, ils essayent par tous les moyens de réussir à au moins sécuriser une partie de leur approvisionnement. Et là, l'Arabie Saoudite pouvait se le permettre avec ses pétrodollars.
Mais il y a quand même une question, parce qu'effectivement le modèle, et d'ailleurs on l'a vu nous ici en France, il est en train de se développer. On se souvient des oppositions lors du chantier de la ferme des 1000 vaches. Finalement elle est active aujourd'hui. La première traite s'est faite en septembre 2014 je crois, mais c'est vrai que les démarches pour tenter de la suspendre ou en tout cas de limiter le projet sont encore en cours. Mais en tout cas il faut s'attendre à ce que finalement ce type de modèle il se développe aussi ici en France, à terme.
Non, vous y croyez ? En France et en Europe, c'est probable que, de toute façon, on est sur un mouvement d'agrandissement des élevages. Alors, il faut relativiser. Quand on parle de 200 vaches dans un élevage, c'est souvent à plusieurs associés. Ça leur permet aussi un meilleur confort de vie, hein, parce que la traite deux fois par jour, c'est quand même une astreinte très lourde. Donc, il y a une partie de ces agrandissements qui sont des regroupements d'éleveurs, entre autres dans un objectif d'amélioration de ce travail, de cette organisation. Après, on est effectivement dans un mouvement de fond qui sera surtout fort dans ces pays où il n'y a pas de tradition laitière. La Chine, l'Arabie Saoudite et même l'Afrique. Il y a quelques peuples qui sont, je pense aux peuples d'Afrique subsaharienne. Ce sont des bergers, ils ont une tradition d'élevage laitier avec du fromage frais, enfin consommé rapidement. Mais globalement, il y a peu de tradition. Donc on crée de toutes pièces, on importe de toutes pièces un système global, c'est-à-dire l'élevage de grande taille qui alimente l'usine.
Mais c'est rentable du point de vue économique? Parce que produire du foin, de la luzerne, avec de l'eau qu'on va puiser à 2000 mètres de fond, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Monter ces hyperstructures, ça demande beaucoup d'argent. Organiser la traite de ces quasiment 40 000 vaches, ça demande aussi beaucoup d'argent. C'est rentable sur le plan économique?
C'est bien la grande question. Est-ce que ça va être rentable à terme? Il y a sûrement certaines structures qui le sont rentables. Elles ne payent pas certains facteurs de production. C'est-à-dire, en Arabie Saoudite, ils n'ont pas payé le foncier. Aux Pays-Bas, le foncier, c'est 40 000 à 100 000 euros l'hectare. Donc déjà, il y a ça en moins. L'eau, ils la puisent, il faut faire les puits, mais ils ne la payent pas. La main-d'œuvre, elle est sous-rémunérée aussi. Donc il y a toute une série de facteurs.
Marche en Arabie Saoudite, c'est pas sûr que ça marche.
Ça marchera pas en France. Ça peut marcher au Vietnam sur d'autres points. Enfin, le foncier, l'eau, la main d'œuvre est pas chère.
Il y en a une, c'est ça que vous voulez dire.
Il y a une ferme de 40 à 50 000 vaches au Vietnam. C'est prévu qu'elle passe à 200 000 vaches. Tout cela fonctionne aujourd'hui. Le jour où il y a un gros problème sanitaire dans l'élevage, le jour où il y a un problème de pollution d'eau, le jour où en Arabie Saoudite ils ont vidé la nappe phréatique, là par contre ce sera la catastrophe.
Allez, on va quitter le Golfe et se diriger vers l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques mois, le ministre allemand de l'Agriculture, justement en pleine crise du lait, Christian Schmidt, voulait que les Européens puissent accéder à nouveaux marchés. Et dans le contexte de suppression des quotas laitiers dont on parlait, la plupart des producteurs ne rentrant plus dans leurs frais, ils cherchaient finalement le salut par l'export, et notamment par l'export vers l'Afrique. Alors ce qui peut avoir du côté de l'Afrique un effet évidemment néfaste pour les producteurs locaux, qui se retrouvent fragilisés aussi par l'arrivée de nouveaux acteurs, qui ne sont pas en mesure de concurrencer. D'une certaine manière, on exporte la crise. C'est une démarche qui peut être regrettable, évidemment, d'autant qu'il y a des acteurs locaux qui rencontrent une certaine réussite. C'est le cas de Dolima, par exemple.
Dolima, ça fait tellement nerf. Dolima.
Ça fait tellement nerf.
Dolima, mais où est-ce que nous faisons? Moi, je suis un peu plus grand.
Ah oui, Dolima, hein, une publicité à la publicité à la télévision sénégalaise, une marque sénégalaise qui marche très bien, justement. Son histoire commence en 2007, l'année de l'ouverture de cette entreprise, la laiterie du Berger. On va en parler avec vous, Christian Corniaud. Bonjour, vous êtes à Dakar, vous êtes agronome au CIRAD, au pôle pastoralisme et zone sèche basée donc à Dakar. Vous êtes un spécialiste des filières laitières en Afrique de l'Ouest. Alors au départ, cette marque Dolima, elle n'utilise que du lait local pour fabriquer ses yaourts, qui rapidement vont rencontrer un franc succès, sauf que justement, elle va être victime de son succès puisqu'elle ne parvient plus à s'approvisionner en lait local. Elle doit incorporer dans ses 30% de lait en poudre venu de l'étranger. C'est une situation terrible, Christian Corniaud, où les producteurs locaux ne peuvent absolument pas profiter du marché intérieur et de la hausse de la consommation, qui pourtant est très significative.
Ici, ce n'est pas tant que la laiterie du Berger n'arrive plus à trouver des marchés, elle les trouve. Ce qu'elle n'arrive plus à faire, c'est collecter in situ, parce qu'elle collecte notamment chez des petits producteurs. On a pu multiplier au début cette collecte, mais on arrive à un seuil où on est encore dans un élevage qui est quand même tourné d'abord et avant tout vers la production de viande. Ce ne sont pas des éleveurs laitiers tels qu'on les entend en Europe. Et donc, à un moment, et là on est arrivé à ce seuil-là, on n'arrive pas à collecter plus. Or, la laiterie du Berger, elle, son marché, sa consommation ici se développe. Et donc, la laiterie du Berger ajoute du lait en poudre, et c'est même plus que 30% en moyenne, pour garder ses parts de marché très concurrentielles, notamment sur le marché de Dakar. C'est-à-dire, quel modèle on veut ici en Afrique? L'image que l'on s'en fait, c'est des petits producteurs, des peuls notamment, hein, des pasteurs, qui sont relativement loin des centres de consommation. Et généralement, ce sont des éleveurs qui élèvent des animaux pour la viande. Et donc, pour produire du lait, il faut intensifier, il faut avoir de l'argent. Ce que n'ont généralement pas ces gens-là, ils n'ont pas de trésorerie pour acheter l'aliment, pour faire de l'insémination. Et donc, ils produisent du lait parce qu'évidemment, dès que l'on fait un veau, il y a du lait. Donc là, on peut collecter à partir de ça, mais auprès d'éleveurs qui sont un peu disséminés un peu partout dans la brousse, relativement loin, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de route, et la collecte coûte très cher. Donc la laiterie du Berger ne peut collecter que dans un rayon de 35-40 km autour de chez elle. Il ne faut pas oublier, dans ces marchés-là, c'est que le consommateur, lui, ici à Dakar, comme dans toutes les villes d'Afrique de l'Ouest, il veut un produit pas cher. Si pour aller collecter du lait local, il faut payer très cher pour aller le collecter, évidemment, pour l'entreprise, même une entreprise comme la laiterie du Berger, ça ne passe plus sur des marchés qui, eux, sont très compétitifs.
Et donc, alors, Christian Cornillot, la question est la suivante. Que fait aujourd'hui l'État, ou que devrait-il faire pour justement soutenir le développement de l'industrie laitière locale?
La seule grande politique que l'on a au niveau, pas simplement au niveau des États, mais à l'échelle de la CEDEAO, donc la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest, la seule mesure qui est claire, c'est une taxe qui taxe les importations à 5%, c'est-à-dire très peu. Donc l'idée aujourd'hui, notamment des producteurs, c'est de faire passer ce niveau de taxation à un niveau un petit peu plus élevé, mais pas trop non plus, parce que les États ont peur qu'en faisant ça, on arrête finalement l'approvisionnement des villes, ce qu'ils ne veulent absolument pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable, en Afrique de l'Ouest, de couvrir ce marché des produits laitiers. Aujourd'hui, tous les pays africains de l'Ouest importent du lait. Même les plus grands pays d'élevage, tels que le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, tous ces pays-là importent aujourd'hui du lait. Alors, ce que veulent faire les États d'abord, c'est appuyer ces réseaux de collecte de façon plutôt ponctuelle autour des petites laiteries qui collectent déjà ce lait pour le faire monter petit à petit et autour de certaines entreprises plus industrielles, celles-là, telles que la laiterie du Berger, mais c'est pas la seule, il y en a une bonne dizaine en Afrique de l'Ouest, pour collecter davantage de lait.
Il y a quand même une forme d'ambiguïté, peut-être des États et des responsables politiques, pour pas dire une certaine schizophrénie même. C'est-à-dire qu'on passe des accords de libre-échange qui mettent en danger quand même les producteurs locaux, même si vous le dites, on essaye d'améliorer les choses pour les protéger de plus en plus. Mais en même temps, ces accords de libre-échange les mettent en danger. Et puis dans le même temps, on dénonce évidemment l'importation de lait en poudre qui les fragilise. Il y a quelques mois, il y a eu des négociations qui avaient été menées pour trouver justement un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui permettait justement aux producteurs européens un accès libre au marché ouest-africain. Qu'est-ce qu'il a changé très concrètement? Quelles ont été les conséquences de cet accord pour les producteurs laitiers ouest-africains?
Alors là, je pense qu'il faut être, faut vraiment être nuancé, parce que d'abord, je pense qu'il faut éviter de faire des multinationales laitières, qui sont parmi les plus grosses industries agroalimentaires dans le monde, hein, on est bien conscient de ça, de faire forcément de ces agro-industries le grand méchant par rapport à des petits producteurs laitiers ici. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut distinguer parce que derrière ces multinationales aujourd'hui qui s'installent ici, il y a aussi des emplois, une façon de nourrir les gens dans les villes et c'est ce que souhaitent aussi souvent les consommateurs. Et puis deuxièmement et peut-être surtout, c'est que il faudrait pas imaginer que ces grands accords dont vous parliez à l'instant défavorisent peut-être parce que le lien direct avec les petits producteurs ici ou les plus gros producteurs ici n'est pas si évident. Il faut voir aussi une certaine segmentation des marchés par rapport au lait local, par rapport au lait en poudre. Et puis enfin, quand vous parliez des APE, puisque c'est de ça dont il s'agit, il faut bien voir que dans ces accords entre l'Union européenne et la CEDEAO, certes, il y a la libéralisation du marché par rapport au lait en poudre, mais d'un autre côté, ici, on a le droit, et d'ailleurs ils s'en sont pas privés, de faire une protection de certains produits. Et parmi ces produits, donc une protection à hauteur de 35%, il y a précisément la viande. Or, comme je vous le disais au départ, la majorité, la grande majorité des éleveurs ici, ce sont des éleveurs qui produisent de la viande et pas du lait. Donc, en protégeant le secteur de la viande, ils protègent une grande partie de ces éleveurs-là.
Tout dernier point peut-être, et ça sera ma dernière question. Depuis plusieurs années, vous le disiez un peu, il y a des multinationales qui s'implantent en Afrique. Je pense à Satrec au Sénégal, là où vous êtes. Je pense à Eurolais en Côte d'Ivoire. Je pense aux Néerlandais Friesland Campina ou encore la société Danone qui est implantée aussi dans la région. Oui. Est-ce que vous parleriez, vous, d'une ruée des grands groupes laitiers dans cette région ouest-africaine? Et qu'est-ce que finalement les petits producteurs locaux pourraient tirer comme type de bénéfice? On entend bien que finalement, c'est d'abord et avant tout la viande qui les concerne. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi transformer finalement leur activité et profiter de l'émergence de ces nouveaux acteurs qui sont finalement des acteurs mixtes parce qu'il y a aussi les États qui accompagnent ces projets de développement. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être un moyen de transformer cette activité?
Je suis tout à fait d'accord et c'est souvent l'objet des discussions que l'on a avec les grands groupes, les grandes fêtières d'organisations de producteurs et d'éleveurs ici en Afrique de l'Ouest. L'idée c'est de s'appuyer sur la puissance financière finalement de ces grands groupes qui s'installent ici pour les obliger, avec les discussions avec les États, de dire, nous, quand on s'installe ici, on se doit de collecter plus de lait local. Alors, le pourcentage, on peut toujours en discuter, mais c'est de mettre Et ça, les États ne s'en privent pas. Par exemple, on parlait de Darla, donc des Danois qui s'installent au Nigeria et qui discutent actuellement avec l'État nigérian pour devoir collecter une partie du lait. C'est-à-dire que de s'appuyer sur cette puissance financière, on sait qu'ils vont vendre davantage de poudre. Mais ce que l'on souhaite d'abord et avant tout ici, c'est collecter plus de lait demain, produit dans ces pays demain, et de s'appuyer justement sur les investissements de ces grands groupes-là. De toute façon, ils en ont tout intérêt également, ces grands groupes, à cause de la mondialisation et de la volatilité des prix qui font qu'à certaines périodes de l'année ou certaines années, il devient compétitif finalement de collecter du lait localement. Donc de ce côté-là, moi je pense qu'il y a de l'espoir, et plutôt que de s'affronter dans deux visions très différentes, essayons de voir comment ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres. Et je pense que les uns et les autres ont besoin du lait des uns et puis de la puissance financière des autres.
Oui, il y a l'idéal et puis il y a la pratique aussi. Effectivement, l'idéal, ce serait de profiter du pouvoir financier de ces multinationales pour aider au développement de l'économie laitière locale. Sauf que toute la question, Elsa Casalegno, c'est de savoir si ces grandes multinationales sont disposées, prêtes à le faire.
C'est un peu ce que je comptais nuancer. C'est vrai que ça, c'est le verre à moitié plein où effectivement les multinationales ont besoin d'un approvisionnement local, ont besoin de lait frais, donc vont contribuer à améliorer les pratiques d'élevage, améliorer les pratiques d'hygiène. C'est un fait. Mais ils n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts. Une multinationale, c'est une entreprise à but lucratif. Et donc, ce n'est pas le développement le maintien de la vie rurale qui lui importe. Et il y aura, qui va contrôler ce développement agricole? Est-ce que ce sera les éleveurs eux-mêmes? Est-ce que ce sera l'État? Ou est-ce que ce seront les multinationales avec chacun leurs propres exigences? Le problème, c'est le rapport de force, en fait. On voit, et ce qui me rend un petit peu pessimiste, c'est que je vois la situation française où l'élevage est historique depuis des millénaires. On aurait pu penser que la profession agricole était suffisamment implantée, forte, structurée pour faire contrepoids. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup, en tout cas, Christian Cornio, qui était avec nous depuis Dakar. Et un grand merci à vous, Elsa Casalegno, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, coécrit avec Karl Lask, « Les cartels du lait, comment ils remodèlent l'agriculture et précipitent la crise ». C'était aux éditions Don Quichotte. Merci beaucoup.
Merci.
Love wants you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it, love wants you.
Voilà, et c'est avec Milky Chance, évidemment, un groupe choisi pour faire ce petit clin d'œil à cette crise du lait dont on parlait ce matin, qu'on se quitte et qu'on se tourne vers le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, vous avez entamé une semaine sur l'intelligence artificielle. Vous aviez évoqué hier le rapport d'étape sur l'intelligence artificielle et la vie. De quoi s'agit-il et que peut-on en attendre, Brice?
Il s'agit d'un projet coordonné à l'université de Stanford, mais dans lequel se sont investis plusieurs des géants de la high-tech et de l'Internet. Il est patronné par Eric Horvitz, le directeur de Microsoft Research. On y trouve notamment l'auteur du deuxième âge de la machine, Eric Brynjolfsson, ou encore Astro Teller, le responsable du projet X, le laboratoire de pointe de Google. Vous voyez, ce ne sont pas des rêveurs. Leur idée est de présenter un rapport tous les 5 ans et durant tout le 21e siècle sur l'avancée des technologies regroupées sous le label intelligence artificielle. Il s'agit d'une part d'informer la société de ce qui est en cours afin de nous éviter le sentiment désagréable que des savants fous seraient en train de donner naissance à des machines qui prendraient le contrôle de nos vies. N'oubliez pas que le PDG de Tesla, Elon Musk, estimait récemment que, je cite, « l'intelligence artificielle constitue notre plus grande menace existentielle », ajoutant « nous risquons de faire là quelque chose de vraiment dingue, c'est comme convoquer le démon sans être protégé par un cercle hermétique fermé ». Le banc. D'autre part, il s'agit aussi de réfléchir en commun aux retombées sociales et aux implications éthiques des recherches menées de manière éparse. Car c'est un aspect des choses que ces technos ont trop longtemps négligé, tout à leur passion de l'innovation et du progrès. Ils se tournent par conséquent vers un certain nombre de laboratoires universitaires, tels que le MIT Media Lab, le Center for the Future of Intelligence, le Lever-Hulme Center for the Future of Intelligence, lancé à Cambridge en décembre dernier, ou encore le Machine Intelligence Research Institute. Le plus étonnant, c'est que les géants industriels qui sont en situation de concurrence se soient entendus pour collaborer. Mais comme le relève John Markoff du New York Times, alors que l'industrie des high-tech est réputée pour son haut niveau de compétitivité, ces sociétés savent à l'occasion travailler ensemble lorsqu'elles y ont intérêt. Dans les années 90, par exemple, elles se sont entendues sur des méthodes standardisées de crypter les transactions commerciales sur Internet. Et bien, c'est ce qui a permis le boom de l'e-commerce que nous connaissons aujourd'hui. Les acteurs dominants des technologies de l'information et de la communication sont d'ailleurs associés pour défendre la liberté d'expression au sein d'une association, la Global Network Initiative. Y participent Microsoft, Google, Yahoo, mais aussi Human Rights Watch. Les auteurs du rapport constatent que les applications de l'intelligence artificielle inquiètent le public, comme les pouvoirs publics. Au gouvernement américain, le premier concerné, il recommande de ne pas chercher à réguler trop précocement des technologies que ces diverses agences ne sont guère capables de comprendre. Bloquer des recherches sous prétexte que ces résultats risquent de donner lieu à des usages pernicieux ne ferait que brider l'innovation et cela provoquerait la délocalisation des laboratoires, probablement en Chine.
Ouais, point trop de régulation. Alors quelles sont donc justement ces questions éthiques, Brice, que poseraient des technologies qui n'en sont encore qu'au balbutiement, disons-le.
Ben certes, ce qu'on appelle la singularité technologique, ce moment hypothétique où le progrès passerait à des intelligences artificielles et où les humains cesseraient de pouvoir maîtriser les avancées technologiques, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Mais d'ores et déjà, se posent des questions délicates. Le professeur de bioéthique de Princeton, l'Australien Peter Singer, en évoquait récemment une toute simple. Faut-il apprendre à un véhicule sans chauffeur à éviter un enfant qui traverse soudain la route en faisant une embardée, même si cela risque de mettre en danger les personnes transportées? La réponse est oui, sans doute. C'est ce que ferait un conducteur humain doté d'un sens minimal de ses responsabilités. Très bien, très bien. Mais s'il s'agit d'un chien ou alors d'une biche? Fin juillet, le MIT Media Lab a organisé une conférence sur le thème « Ces questions sur la technologie que vous n'êtes pas autorisé à poser ». Et parmi celles-ci, peut-on fabriquer des robots sexuels ayant l'apparence d'enfants afin de servir d'exutoire aux pédophiles ? En effet, précisait la spécialiste de l'éthique des robots Kate Darling, des robots sexuels de très haute qualité sont en train d'arriver plus vite que nous n'avons le temps de discuter des problèmes divers qu'ils vont poser. Fin de citation. L'intelligence artificielle va très rapidement trouver des applications pratiques dans le domaine médical. Les données concernant notre santé seront toutes disponibles et croisées afin de fournir des aides aux diagnostics que les ressources du big data vont rendre terriblement prédictible. Dans ce domaine, dans le domaine de la chirurgie, l'intelligence artificielle équipant des robots va rendre ces derniers extraordinairement précis. Question, les assurances auront-elles accès à nos dossiers prédictifs? Qui sera responsable des accidents médicaux? Les échos de ce matin évoquent les questions juridiques, cette fois posées par l'intelligence artificielle, dont sont de plus en plus dotés des robots. À qui appartient le savoir-faire acquis grâce au machine learning? En cas de dommages causés par le robot, qui est juridiquement responsable? Le fabricant, le programmeur ou l'utilisateur? Certains envisagent de doter certains robots de la personnalité juridique. Vous le voyez, Florian, nous ne sommes qu'au début d'une révolution, mais déjà, beaucoup de problèmes se posent.
Oui, beaucoup de questions éthiques, effectivement, et d'ailleurs certaines qui sont particulièrement dérangeantes. Merci beaucoup, en tout cas, parce que c'est des questions, effectivement, qu'il faut quand même se poser, qui s'imposent à nous. Merci beaucoup, Brice, en tout cas. On peut retrouver votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On tapote le monde des, le tour du monde des idées, on retrouve votre chronique à laquelle on s'inscrit. Merci, Brice. À demain.